puis voilà. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous devez que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et ce qu'on vous a enseigné. À vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Verset 25, il dit « C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune emprise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat d'oie, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » Et les cinq premiers versets du chapitre 5. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Alors, pour commencer, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont l'air sympas, hein, ces petits animaux. Bon, mais quelle relation avec le texte qu'on vient de lire ? Si vous arrivez à voir d'un peu plus près, vous voyez que nos petites bébêtes, là, sont fabriquées à partir de quoi ? Ouais, à partir de jeans. Donc, on peut fortement penser qu'on n'a pas acheté des jeans neufs pour les découper et pour fabriquer là, nos petits animaux qui ont de belles frimousses. Donc, ça veut dire que à partir de l'ancien, certainement, bah, on en a fait quelque chose de sympa. Et c'est vrai que parfois c'est dommage de jeter des choses et de ne pas les réutiliser. Dans notre vie actuelle, et c'est une bonne chose, on nous encourage aussi à pratiquer le recyclage. On va pas forcément tout jeter, voilà, hop, on se débarrasse, mais à réutiliser les choses anciennes. Ça, je dirais que c'est bien pour les choses matérielles. En est-il de même pour nous, pour la vie chrétienne ? Ben non, c'est pas ce que nous a dit le texte que nous venons de lire. Parce que, ben il est question, enfin l'apôtre Paul, ici, comme dans d'autres passages, par exemple quand il s'adresse aux chrétiens de Colosse, il utilise, je dirais, cette image de se dévêtir et de se revêtir. Et il ne nous encourage pas à dire, voilà, garde un peu l'ancien, essaye de le rafistoler, et puis tu vas réussir à en faire quelque chose de neuf. Non, il nous dit, rejette ce que tu étais autrefois et revêt un nouvel habit. Donc, on arrive au premier point. Donc la première idée clé, ici dans ce passage, c'est l'appel à changer de vie. L'apôtre nous exhorte à nous débarrasser, à nous dévêtir de notre ancienne manière de vivre. J'en reviens juste un peu aux vêtements. Je pense que quand vous achetez de nouveaux vêtements, a priori, c'est pour les mettre. Alors, je sais bien qu'il y a des gens, ils ont du mal à se débarrasser de l'ancien, et puis là, le jour où il faut vider une maison, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai gardé? Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai pas mis ça. Et alors, quand il faut vider parfois des maisons pour question, parce qu'il y a eu des décès, alors qu'est-ce qu'on retrouve pas? Parfois des choses intéressantes, mais alors, tout ce qui a été gardé, parfois il faut faire venir une grosse benne pour se débarrasser de l'ancien. Là, le Seigneur nous encourage à nous débarrasser de l'ancien tout de suite. Parce que garder l'ancien, c'est parfois se mettre en danger. Alors l'apôtre Paul nous exhorte à changer de vie. Il fait, dans un premier temps, quelques rappels sur justement l'ancienne nature. Et on va reprendre ces rappels. Une ancienne manière de vivre, comme je l'ai dit, à abandonner, car elle correspond à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il reparle de cela dans le début du texte que nous avons lu. Il est question d'un ensemble de pratiques tout à fait, j'irais dire, choquantes, y compris dans le domaine sexuel. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on peut en arriver là? Pourquoi, peut-être même autour de nous, j'espère que ça ne nous concerne plus aujourd'hui, en arrive-t-on à tel point? En fait, l'origine est liée à l'éloignement de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 18, je le relis. Ils ont en effet, il parle des païens, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Après, il nous dit pourquoi. À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Le problème de départ, je dirais, de l'homme et de la femme, c'est l'endurcissement du cœur. Si dans mon cœur, j'ai dit non à Dieu, si malgré l'appel de Dieu, je n'ai pas répondu à cet appel, c'est la cause profonde. Alors là, il est question d'ignorance. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études. Là, il n'est pas question de l'intelligence qu'on peut avoir, des doctorats que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des doctorats à l'appel même, des masters que vous voulez, mais être ignorant et sans intelligence par rapport aux choses de Dieu. Cet éloignement de Dieu a des conséquences. Et on voit que ces conséquences sont, il nous est dit, l'intelligence obscurcie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui sont même des gens brillants dans leur vie professionnelle, par exemple. Mais quand il s'agit de Dieu, voilà, ils sont dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et on voit dans la pratique, je ne vais pas tout relire, mais il nous est dit, ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés, au verset 19, à l'inconduite, pour se jeter avec frénésie, vous voyez, le terme est fort, frénésie, c'est pas juste un petit peu, dans toutes sortes de vices. Là, il est particulièrement, dans ce verset, question de tout ce qui est comportement lié à la pratique sexuelle, et c'est vrai que je ne vais pas vous faire un long développement. Quand on voit parfois, on se dit, mais les gens, ils ont totalement perdu la tête, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de telles pratiques? Et pourtant, ce n'est pas une question de, je dirais, de niveau d'intelligence, voilà. Mais si on est, si on rejette Dieu, si on a l'intelligence obscurcie, bah, on voit parfois des pratiques totalement, je dirais, je sais pas quel est le bon terme, mais voilà, complètement à côté et qui sont même, qui sont choquantes. Alors il y a une conséquence extrêmement forte que l'apôtre Paul redit à la fin du passage que nous avons lu, où il dit « Sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, là il reparle des aspects sexuels, à l'impureté ou à la soif de posséder, là la soif de posséder ça peut être pas que à ce qui est lié au domaine sexuel, ça peut être ben, « je veux toujours plus, j'ai toujours envie de plus », voilà. Il dit que c'est une idolâtrie et il dit que aucun homme n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc je dirais que la sentence, elle est quand même sévère. C'est pas... Voilà. Il dit que ben, le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, aucun n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc c'est ça, l'exclusion du royaume de Dieu. Donc ça, c'était un rappel de l'apôtre Paul. Ensuite, fort heureusement, deuxième point, il nous dit, nous, et j'espère que nous sommes nombreux ce matin, qui sommes chrétiens, bah, pour vous, ça doit être différent. Au verset 20, il dit, mais vous, pour marquer cette rupture, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Alors certaines traductions au verset 21 ont le terme « si ». Alors si on lit ces traductions, ça vous dit la chose suivante. « Si du moins vous l'avez entendu, si c'est en lui que vous avez été instruit. » Alors, ce « si », on pourrait dire, il introduit le doute. Mais dans la traduction de l'original, le « si » n'exprime pas le doute. C'est pour ça que je trouve que la traduction du semeur, notamment, rend beaucoup plus le sens profond, puisque nous, dans la traduction du semeur, on a le terme « puisque ». Donc, vous qui êtes chrétien, vous ne devez pas vivre de cette façon, comme on vient de la décrire, « puisque », parce que il y a quelque chose de différent. Alors c'est intéressant cette expression. Pourquoi est-ce que je devrais, logiquement, puisque vivre différemment, c'est parce que j'ai compris. Alors j'ai compris quoi? Ce n'est pas une question là aussi de niveau intellectuel, parce que... Ah oui, c'est trop tôt. Parce que j'ai compris quoi? J'ai compris... qui était Jésus-Christ. J'ai compris que Jésus-Christ, un jour, avait porté mes péchés. Comme on l'a entendu tout à l'heure, il était mort, mais il est ressuscité. Donc la raison pourquoi les chrétiens ne peuvent, ne doivent plus se comporter ainsi, c'est parce qu'ils connaissent Jésus-Christ. Pourquoi je vais vivre différemment? Ce n'est pas par légalisme. Ce n'est pas pour gagner mon salut, non, c'est parce que j'ai compris que cette nouvelle manière de vivre, elle était bien meilleure. Et que, bah, d'une certaine façon, parce que je sais maintenant où est le meilleur pour moi, ça serait quelque chose de paradoxal qu'ayant compris cela, je me comporte encore comme avant, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Pour avancer, cependant, dans cette nouvelle manière de vivre, ben, on a besoin de différentes choses. Au verset 21, je le relis, « Puisque vous avez compris ce qu'il est, » il parle de Jésus-Christ, « et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme. » Il est question ici d'enseignement. Ça veut dire que le jour où je suis devenu chrétien ou le jour où je deviens chrétien, bah derrière, j'ai besoin d'être enseigné ou de continuer à être enseigné. C'est comme un enfant, il naît, pour qu'il grandisse, il a besoin de nourriture. Et nous aussi, chrétiens, ben nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de nous nourrir, parce que sinon, ben sinon on ne grandit pas. Et peut-être que par-ci, par-là, nous pouvons de nouveau être en danger de revenir en arrière, peut-être avec des comportements qui étaient liés à notre ancienne vie. Pour avancer dans cette nouvelle manière de vivre, on a, comme le dit le texte, besoin d'être renouvelé, ce qui doit peut-être aussi parfois nous interroger sur nos habitudes actuelles. Que lisons-nous? Que recherchons-nous? Qui fréquentons-nous? Il ne s'agit pas, loin de moi l'idée, de sortir, comme certains diraient, du monde, mais de changer de pratique. Encore une fois, l'apôtre Paul nous invite à revêtir l'homme nouveau. Si je mets des habits neufs, ben, sauf, mais ça je le vois rarement, des gens qui mettent l'habit neuf sur l'ancien, quoi. Non. Pour mettre l'habit neuf, ça veut dire qu'avant, je me suis séparé de l'ancien habit. Peut-être que parfois, de manière très concrète dans nos vies, ben, avant de revêtir l'habit neuf, oui, il nous convient de nous séparer. Voilà, ça, chacun peut savoir, nous séparer de certaines habitudes, se séparer de certaines lectures, se séparer, voire parfois, de certaines relations qui, nous savons, peuvent nous pousser dans le mauvais sens. Deuxième point, pourquoi vivre différemment? C'est qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, j'ai un nouveau statut. J'ai une nouvelle identité. L'apôtre Paul, au verset 1 du chapitre 5 que nous avons lu, il reprend cette expression « puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu ». C'est pas non plus, c'est peut-être. Si, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, bah, puisque vous êtes ses enfants, bah, vivez en cohérence parce que vous êtes ses enfants. Il est question aussi, dans ce passage, d'être scellé du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit, hein, le sceau, ça marque qu'on est la propriété de quelqu'un. Et là, il est dit que le chrétien, ben, il est scellé du Saint-Esprit, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Pourquoi vivre différemment ? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Parce que je suis une nouvelle personne. Parce que j'ai une nouvelle identité. Troisième question, ou troisième point plutôt, c'est peut-être, vous allez dire, mais comment vivre ce changement ? Le texte nous donne au moins deux pistes. Première piste, comment vivre ce changement, c'est, je dirais, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Voilà. Ce qui change tout dans nos vies, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il y a des passages dans l'Écriture, je ne vais pas les relire, l'Épître aux Romains notamment, c'est très clair. Il est dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas ». Deux choses l'une, soit j'appartiens au Seigneur, effectivement, j'ai le Saint-Esprit, soit je n'ai pas le Saint-Esprit et je ne lui appartiens pas. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. La bonne nouvelle, c'est qu'en nous tournant vers le Seigneur, ben le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes sous la propriété de quelqu'un de nouveau. Nous appartenons au Seigneur, comme on vient de le dire. Nous sommes enfants de Dieu. D'autres passages du Nouveau Testament nous disent aussi « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Oui, si nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit, nous serions, j'irais, sans force. Mais parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que je me suis tourné vers le Seigneur, je n'ai plus à lutter par moi-même, par mes propres forces, même si j'ai des prises de position à prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être par rapport à certaines choses, à certains comportements qui peuvent me poser problème dans ma vie. Voilà, il y a parfois des domaines où les unes et les autres, ben, on a plus de mal. Ce qui est facile pour l'un, dire, ah ben, tu sais, moi, dans le domaine, moi, pourquoi, voilà, vu mes antécédents, ça ne me pose aucun souci. Mais vu peut-être ma vie ancienne, tu sais, là, j'ai encore des combats, là, j'ai encore des luttes. Mais dans ces combats et ces luttes, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous et qui veut nous aider, qui veut nous donner la force, si nous sommes prêts à dépendre du Seigneur, pour être victorieux dans ces domaines. Dans Galates, au chapitre 5, ne cherchez pas, Galates, au chapitre 5, verset 16, Paul dit, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. » Voilà le défi pour nous chrétiens. « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Voilà, c'est cet ancien homme, notre ancienne nature. « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. » C'est peut-être là, pour le chrétien, la question centrale. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie ? Deuxième point que j'ai soulevé, parce qu'il faut aller à l'essentiel, hein, dans une étude biblique, on aurait le temps de fouiller beaucoup plus, mais là, il faut aller à l'essentiel. Deuxième, pour le comment vivre ce changement, l'apôtre nous encourage, nous appelle à être imitateurs de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Il nous dit au verset 1, à la fin du verset 1 du chapitre 5, « Suivez l'exemple de votre Père. » Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Et l'apôtre nous rappelle l'amour dont on a été aimé par Jésus, qui s'est livré pour nous. Mais il nous dit maintenant, ben, vous qui êtes devenus chrétiens, ben, voilà votre exemple. Le marqueur de votre comportement, ça doit être le Seigneur. C'est vrai que naturellement, ça nous paraît être bien difficile. Mais encore une fois, si nous nous laissons conduire par le Seigneur, là, de vrais changements sont possibles. C'est parce que je suis enfant de Dieu, que j'ai le Saint-Esprit, que ce changement est possible et que ce changement doit être réel. Là, vous voyez quoi ? Voilà, des fruits. En haut, pour ceux qui sont un peu plus proches, là, a priori, c'est quoi ? En haut. Voilà, en haut, c'est des pommes, et en bas, des oranges. Donc, voilà, en haut, on a un pommier, et en bas, on a un oranger. Il y a une expression qu'on utilise parfois, qui dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ouais. Quand vous allez faire vos achats, et que vous avez envie d'acheter des pommes, et que ce que vous avez devant vous ne ressemble pas à des pommes, je pense que vous achetez pas. J'ai envie de dire, dans la vie chrétienne, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Si quelqu'un me dit, tu sais, voilà, chrétien, voilà, tout ça, et bon, mais là, j'ai quand même plus qu'un doute, là, parce que, voilà, s'il me dit, je suis pommier, qui porte des cerises, je vais dire, bah écoute, je crois que tu t'es un peu trompé. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques indicateurs. Et l'apôtre Paul va également en parler dans ce passage. Alors, avant d'en parler, enfin, avant que moi j'en parle, évidemment, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, ça ne veut pas dire qu'on sera sans faille. Ben, on sait que parfois il y a des saisons où un pommier porte plus de pommes, moins de pommes, ouais, des bonnes saisons, des moins bonnes saisons. Voilà, peut-être que hier vous avez entendu aux infos, cette année la récolte pour les olives, ben, d'habitude il faut 4 kilos d'olives pour 1 litre. Voilà, là maintenant cette année il en fallait 8 pour 1. Bon, voilà, la récolte est plus ou moins bonne. Contexte fait que c'est plus ou moins favorable, n'empêche que c'était quand même des olives qui donnent de l'huile d'olive, quoi. Si c'est des pommes, ça donne pas de l'huile d'olive, quoi. Donc, Voilà. Il peut y avoir aussi dans nos vies, c'est là où je veux dire, il y a dans nos vies peut-être des moments où, je veux dire, on porte plus de fruits, mais si je suis un pommier, c'est pas vraiment normalement possible que je produise autre chose que des pommes. Là, on est bien d'accord. Après, les transformations, où je ne suis pas un scientifique de ce qu'on peut faire avec un arbre, enfin voilà. Mais voilà, quelques indicateurs. Là, l'apôtre Paul, je pense qu'il prend des exemples, il pourrait en prendre d'autres, mais quelques exemples. Donc on va reprendre ces exemples. Il oppose au verset 25 le mensonge avec la vérité. Oh, a priori, on peut dire même surprenant. S'il en parle, c'est que c'était peut-être un sujet par rapport à certains, ces chrétiens. Il dit, c'est pourquoi débarrasser du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Pas de place pour le mensonge dans la vie chrétienne. Alors bon, certains me diront, oui, mais il y a des petits mensonges, oh, parfois, je ne dis pas vraiment ce qui est vrai, mais est-ce que c'est un vrai mensonge à chacun de voir. Parfois, c'est par manque de courage. Mais est-ce que on a le courage, en y mettant parfois la forme, j'entends bien, mais de dire la vérité. Oh, même parfois, c'est... Oh, tu sais, j'avais trop de boulot, hein, je ne pouvais pas venir. Tu parles, j'avais pas envie de venir. Parfois, c'est le boulot, hein, ou d'autres raisons. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Hein, parfois, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de dire, peut-être que, oui, j'avais pas envie de venir. Si j'ai pas envie de venir, au moins, j'ai pas envie de venir. C'est juste un exemple, mais j'assume. Deuxième exemple qui prend, la question de la colère. D'ailleurs, là, il faut quand même en parler un peu, parce que quand vous prenez la traduction, verset 26, « Mettez-vous en colère », si on prend ça comme ça, on se dit, oula, mais alors là, j'ai pas l'impression, si la Bible dit « mettez-vous en colère », et d'ailleurs, je vais un peu plus loin, verset 30, c'est toute la liste, amertume, irritation, colère, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Est-ce que la Bible, elle dit n'importe quoi, elle se contredit en quelques versets? Non, certainement pas. Le « mettez-vous en colère », ici, au verset 26, peut-être qu'une meilleure traduction serait « si vous vous mettez en colère ». Ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi, enfin, il y a des situations où c'est légitime de se mettre en colère. D'ailleurs, c'est arrivé à Jésus de se mettre en colère. Hein, le passage qui me vient certainement le plus à l'esprit, c'est lorsque il chasse les vendeurs du temple. Il y a des situations qui sont source de colère parce qu'il y a injustice, par exemple, et donc là il est légitime de se mettre en colère, mais le passage nous encourage que si ça nous arrive, c'est de ne pas nous enfermer dans cette colère et intérieurement de revenir à une situation qui est aussi paisible. Voilà. Après, il y a la mauvaise colère dès le départ, hein, où effectivement, nous sommes invités, si on est colérique, j'allais dire par nature, encore, je mets le « par nature » entre guillemets, à laisser le Seigneur nous transformer, si c'est un trait, voilà, ou si c'est un domaine avec lequel nous avons des combats, ce qui peut être entendable. Hein, voilà. Ensuite, un autre exemple qu'il prend, là aussi, ça peut dire, mais là quand même, le vol, hein, il dit à ses chrétiens que le voleur cesse de dérober. Certainement qu'il y avait dans l'assemblée des personnes qui, dans leur ancienne vie, volaient. Voilà. Bon, j'espère que là aussi, pour un chrétien, c'est clair que c'est pas quelque chose qui peut et qui doit être dans son comportement. On peut peut-être parfois s'examiner d'un peu plus près. Relation avec le fisc. Ouais. marcher, travail au noir. Ah bon? Tu crois que c'est du vol? À chacun de s'examiner. L'apôtre Paul nous invite à nous donner de la peine et à travailler honnêtement de ses mains. Pour, hein, et c'est, je trouve que c'est intéressant, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, on change. Voler, c'est prendre aux autres ce qui ne m'appartient pas, hein, et ce que je n'ai pas payé, par exemple. Et là, il nous dit, travaille honnêtement pour que tu aies de quoi donner. Je passe d'un comportement où je prends à un comportement où, si mes moyens le permettent, je donne. Ça change tout. Alors on a la chance, je ne vais pas aller trop loin là, sur ce terrain, mais ça peut interroger quand même, on a la chance de vivre dans un pays où on a de l'aide sociale, et tant mieux. Et il y a des personnes qui, ben, on peut, voilà, qui dépendent de cela, et tant mieux qu'il y a ces aides, donc que je me fasse vraiment pas mal comprendre. Mais si par exemple le comportement d'un chrétien c'était le suivant, oh, tu sais, je pourrais bosser, je trouverais du boulot sans problème, mais bon, je profite, je préfère quand même profiter du système, parce que ben là, moi je dis sincèrement, il y a un souci. Il y a un souci. Peut-être qu'il n'a pas tout compris. Ce verset l'encouragerait plutôt à dire non, si tu as les moyens physiques, tout ça, pour aller travailler, ben, va travailler. Ces aides, ben, elles profiteront peut-être à quelqu'un d'autre qui n'a pas justement les moyens et qui n'est pas dans ta situation. À un moment donné, si on est un pommier, ben, le fruit, c'est des pommes. À un moment donné, il y a des indicateurs, voire des indicateurs d'alerte. Autre exemple, là, oh là, c'est un thème important, nos paroles. Alors oui, l'apôtre, là, on l'aborde plusieurs fois. Là aussi, que ton ancien comportement, hein, alors ça peut être, voilà, hein, il parle, il est très concret, il parle de propos grossiers, de plaisanteries équivoques, de paroles blessantes. Rassurez-vous, on a le droit de plaisanter entre chrétiens. Mais si c'est des plaisanteries douteuses, quelqu'un qui sort constamment là des plaisanteries douteuses, ben, ouais, c'est gênant. Hein, c'est gênant. Donc, l'apôtre nous encourage plus à des paroles réconfortantes, des paroles positives, des paroles qui font du bien, des paroles encourageantes. Et on pourrait mettre d'autres synonymes. J'arrive vers la fin. Et puis, autre domaine, voilà, c'est pas toujours gagné, hein, même pour moi aussi, hein, je le dis, bah là où tu as de l'amertume, là où tu es irrité, là où tu en veux à d'autres, parfois pour les mauvaises raisons, parfois pour des justes raisons, bah laisse le Seigneur transformer ton cœur et franchis ce pas où il est dit « pardonnez-vous ». Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, je vais conclure. Donc, encore une fois, bah, on voit que l'apôtre nous rappelle que nous sommes des femmes et des hommes nouveaux, avec une nouvelle identité, un nouveau statut, si nous avons accepté le Seigneur. Ce nouveau statut, cette nouvelle identité, doit logiquement nous amener à une transformation de vie, même s'il reste des combats, pour que bah, nous soyons un témoignage, déjà, je dirais, en cohérence avec le choix que nous avons fait, mais aussi un témoignage pour le dehors. Si, et c'est bien, il faut afficher cette nouvelle identité, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas en avoir peur, mais sans devenir légaliste, il faut quand même aussi avoir la préoccupation de se dire, c'est est-ce que, dans la réalité, je reflète cette nouvelle identité, ce nouveau statut qu'il est bon d'afficher, que je dois afficher, mais avec une nécessaire cohérence. Amen.